est-ce qu'on peut faire un tri? Comment est-ce qu'on peut avoir la sagesse de Dieu pour croire et mettre notre confiance dans ce qui est un petit peu plus, disons, en accord avec la parole de Dieu? Et je commence en vous posant une question. Êtes-vous anxieux, des fois, quand vous lisez les nouvelles, quand vous regardez la game numéro 1 Canada-États-Unis, puis que ça commence à se taper dessus en première période à cause des deux présidents? Quand notre sport devient politique, on se pose des questions. Moi, en tout cas, je me pose des questions. Et quand on lit un peu partout ce qu'on voit, il y a énormément de confusion. Morale, politique, et on peut en nommer plein d'autres. Énormément de confusion sur comment vivre une vie chrétienne dans le brouhaha ou la cacophonie du monde de l'information. On a tous, ou presque ici dans la salle, accès à toute la connaissance du monde au bout de nos doigts. Et malheureusement, on est de plus en plus stupide. J'ai une question pour vous. Sans regarder dans votre téléphone, combien de numéros de téléphone vous connaissez par cœur? Et vous savez qui ça va appeler? Et si on revient, il y a 15 ans, 20 ans, combien de numéros de téléphone vous connaissiez? Moi, ça a comme divisé par 10 environ. Je me souviens de 3 numéros de téléphone. Celui de mes parents, mon meilleur chum que j'appelais 3 fois par semaine, puis mon frère, parce qu'il fallait que je l'appelle en cas d'urgence. C'est les 3 numéros de téléphone que je connais. Les autres, désolé, mon cerveau les retient à ma place. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble ce matin. Le monde est tellement rempli de désinformation. Les opinions qu'on entend aujourd'hui sont souvent données par des gens qui sont des spécialistes de Google ou quelqu'un qui est meilleur que vous pour utiliser Internet. Vous savez, la plupart des problèmes que vous allez rencontrer sur votre ordinateur se règlent en 5 minutes. Vous ne savez juste pas comment. Et vous appelez probablement quelqu'un pour qu'il répare à votre place. Et sachez que probablement, cette personne-là, c'est juste utiliser Internet mieux que vous. Mais aujourd'hui, la question que je veux qu'on regarde ensemble, c'est comment vivre une vie de piété, une vie qui veut suivre Dieu et s'ancrer dans une foi solide, alors que tout ce qui nous est nourri est facilement discutable. Alors qu'autour de nous, la plupart des gens ont réduit le christianisme à un ensemble de valeurs qui sont excellentes. Si vous regardez, les valeurs chrétiennes sont souvent dans les plus hautes. La plus haute preuve d'amour et la meilleure façon de vivre que vous allez trouver dans ce monde, c'est les valeurs judéo-chrétiennes. On connaît, la plupart d'entre nous, les 10 commandements qui sont un rappel. Et souvent, les gens vont prendre les 10 commandements et vont aimer comme les 5-6 derniers. Et là, ils oublient les 4 premiers. Parce que on aime l'ensemble des valeurs qui sont promues par la Bible. Et bien souvent, ces valeurs-là qui sont bonnes en elles-mêmes, lorsqu'on leur donne leurs racines là où elles vont vraiment, ce qui veut dire dans une relation restaurée avec Dieu, mais sont maintenant traités, ces valeurs-là qui sont bonnes aujourd'hui, le cœur de l'homme devient tellement corrompu que les valeurs bibliques qui sont bonnes sont maintenant des tueuses de joie. Et même si la plupart des gens vont vous dire qu'on est d'accord avec le fait de... Donc, on aime bien le commandement numéro 7, tu ne tueras point. Celui-là, les enfants, c'est toujours le premier qu'ils me disent. On l'aime, celui-là. On n'aime plus le dixième. Hein? Tu ne convoiteras point. Mais on est tous capables de le spiritualiser et de regarder le voisin en disant, bon, lui peut-être qu'il convoite, mais moi, si j'avais juste ça, ma vie serait tellement plus facile. Hein, Seigneur, donne-moi donc ça. Quand on regarde le texte, quand Jésus parle à ses disciples, Matthieu chapitre 10, les versets 16 à 20, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis à travers les loups. Soyez donc rusés comme un serpent et prudents. » Et on est averti que la vie chrétienne, la foi en Dieu, c'est un combat. Et je vous annonce officiellement, depuis que Dieu a créé le monde en Genèse 1, aucun agneau n'a gagné un combat contre une meute de loups. OK? Je vous l'avertis. Spoiler, c'est jamais arrivé. Mais Jésus nous enseigne aussi qu'il est avec nous et qu'il nous donne quelque chose de plus puissant que le monde. Et c'est sur cette base-là que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin le texte qu'on va regarder. Si vous avez tourné dans 1 Jean au chapitre 4, on va lire les 6 premiers versets. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Redonnez le texte ce matin et votre prédicateur pécheur, on va donner tout ça à Dieu et lui demander de nous parler ce matin. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin parce que tu es la source de tout notre espoir. Seigneur Jésus, sans toi, on n'est pas capable de gagner. La lutte avec nos péchés, la lutte avec le monde. Seigneur Jésus, on a besoin de toi. Et ce matin, on te demande simplement de nous parler à travers le texte, à travers la prédication, à travers les chants même, Seigneur. On te demande de faire une œuvre dans nos vies afin d'éclairer nos yeux, de nous permettre de voir, Seigneur, ton amour, ta grâce et ton chemin qui est plus excellent que ce que le monde peut nous offrir. Aide-nous, Seigneur, à avoir une sagesse qui vient de toi. Tu nous dis dans Proverbes que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et que celui qui veut acquérir de l'intelligence s'approche de Dieu. Alors, Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin. On te demande de nous parler. On te demande, Seigneur, d'être la source de toute notre joie ce matin. On te demande d'être le centre de cette prédication dans nos vies, dans nos cœurs. Et que tu puisses, Seigneur, nous amener à chercher ta face. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin, que ton nom soit béni, Aide-nous, Seigneur, à nous réjouir de tout ce que tu fais pour nous et à avoir cette sagesse qui vient de toi. On te prie ces choses pour ta gloire, Jésus. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble. Voici un peu ce qu'on va regarder ensemble, les points qu'on va développer. Et de nos jours, j'aimerais vous dire qu'être chrétien, ça a un sens très large. Très large. Et malheureusement, c'est rare qu'on suit le Seigneur comme il nous appelle à le faire. Vous savez, être chrétien, on a déjà dit, Dieu nous dit, il nous envoie comme des brebis à travers les loups. Mais aussi, il nous envoie comme des ambassadeurs. Et ça fait quoi un ambassadeur? Ça représente son pays, son Dieu, son souverain, dans un monde qui n'est pas le sien. Okay? Et là, on arrive à l'apôtre Paul, et dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit, vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Vous vivez dans un monde qui n'est pas le vôtre, entouré d'une culture qui n'est pas la nôtre, et vous avez le devoir ou la responsabilité de représenter Dieu. Et il va un pas plus loin, il utilise un mot qu'on n'aime pas. Et pour ceux qui sont au fait, dans les dernières années, MacArthur a écrit un livre sur ce point-là, il nous appelle à être des doulos, un esclave. Et ça, on n'aime pas ce mot-là. Hein? Dieu nous appelle à abandonner nos droits personnels afin de suivre Jésus d'une façon qui est complètement opposée à notre nature humaine. Et on est entouré d'influences qui sont omniprésentes. Donc ce matin, j'aimerais vous amener sur ce petit chemin qu'on va prendre ensemble. Suivre la parade qui est simplement l'idée de dire quelles sont les influences qu'il peut avoir autour de nous. Et on va regarder les influences du monde. J'aimerais vous donner trois petites pistes pour faire attention qui sont, je crois, non exhaustives. Ça veut dire qu'il y en a plein d'autres. Mais j'aimerais qu'on regarde ceux-là. Parce qu'il y a trois choses qui sont souvent très utilisées. On va regarder les faux prophètes dans 2 Pierre et ici dans Jean. Il y avait cette espèce de prestance, quelque chose que les faux prophètes font et sont souvent, qui amène notre cœur humain à vouloir les suivre. Et on va ensuite regarder c'est quoi la vraie confession de Christ. Parce que vous savez ici, et je l'entends souvent, et parfois c'est difficile de comprendre, hein? Reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus est venu, que Jésus est venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut-tu juste dire si quelqu'un est capable de dire Jésus est le Sauveur? Il faut le croire. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un barème qui est intelligent, qui est honnête, qui est vrai, qui est biblique? Sur quelle base est-ce que je vais bâtir ou croire quelqu'un qui confesse Jésus? Et là, on va regarder ensemble, et j'aimerais vous dire ici, c'est un combat qui est très difficile. C'est pas facile. Et ensuite, on va terminer avec quelques petites applications. Si vous tournez dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul nous dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous devons être capables de comprendre. Le combat, il est spirituel. C'est un combat pour notre cœur, nos affections et nos pensées. Et quand lire ce qui se passe dans le monde, lire les influences du monde m'amène de l'anxiété, m'amène à questionner qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que je dois faire avec mes enfants, comment est-ce que je dois vivre. Là, on tombe dans un vrai combat qui nous concerne. Hein? On n'est pas, et là, je ne parle pas ici des combats théologiques extrêmement profonds de ceux qui font qui essaie de comprendre la fin des temps et des 8 différentes façons d'interpréter l'Apocalypse ou des 22 façons différentes d'interpréter Daniel 11, je ne vous parle pas de ça. On ne parle pas non plus du combat profond de la foi qui essaie de mettre en lien notre choix personnel de suivre le Seigneur, notre besoin de repentance, notre besoin d'abandonner nos péchés et la gloire de Dieu, la volonté suprême de Dieu, que tout soit sauvé, mais aussi l'élection de Dieu. On ne parle pas de ces doctrines-là ici, on va être très pratique ce matin. On va être très pratique parce que je ne pense pas que ça vous crée de l'anxiété si je vous parle de ces choses-là. Ça remplit notre cerveau. Et là, on aime ça, avoir un cerveau musclé. Hein? « Smart is the new sexy » qui disent « On aime ça être intelligent ou avoir l'air de savoir de quoi on parle. » C'est pas pour vous, mais moi j'aime ça. J'aime ça montrer mes muscles de cerveau. Les influences du monde, j'ai pas mis d'animation, pour ceux qui prennent des notes, ça va être plus facile. Il y a plusieurs choses qui peuvent influencer notre capacité à réfléchir comme il faut, des choses qui sont anxiogènes, comme je parle depuis tantôt. Et une première, c'est celle du climat politique. Si vous prenez le temps et que vous êtes un peu fanatique et que vous allez vous chercher des livres sur les puritains des années 1500, OK? Ces hommes de Dieu-là étaient capables de vous faire des homélies, des prêches et vous écrire des livres sur les psaumes, sur la profondeur de l'amour de Christ, sur la dévotion, la piété, comment vivre une vie chrétienne. Ces gars-là priaient des heures et des heures et des heures par jour. Ils avaient une discipline exceptionnelle. Mais sachez que dans près de 80 à 90% de leurs écrits, l'Antéchrist, c'est le pape. Et quand vous le lisez, ils sont en train de me convaincre. C'est intelligent. Mais le climat politique, religieux de leur temps, les poussait, malgré toute leur sagesse profonde sur l'amour de Dieu, les poussait à avoir cette vision des œillères. L'ennemi, c'est ça, et donc on va parler contre ça. Et c'est extrêmement dangereux. C'est une tâche difficile de ne pas politiser ma foi. Et aujourd'hui, on est dans un climat extrêmement politisé. Hein? Êtes-vous rouge ou bleu? Êtes-vous pour ou contre? Êtes-vous conservateur? Êtes-vous... Et là, on politise nos choses. Et j'aimerais vous dire, intéressez-vous à la politique. Mais sachez que votre appel, il n'est pas politique. Il est éternel. Il est évangélique. Et quand vous avez une anxiété créée par les politiques du monde, qu'elles soient européennes, qu'elles soient selon Poutine, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aux States, ce qui se passe au Canada, si ça vous crée de l'anxiété, vous avez accès pleinement à une paix qui surpasse toute chose. Ancrez-vous dans l'Évangile. Et là, les gens disent, c'est quoi le rapport entre l'Évangile et la politique? Il est énorme. Mais vous n'êtes pas appelés à être des politiciens, premièrement. Vous êtes appelés à être des enfants de Dieu. Et on a besoin d'hommes et de femmes de Dieu, fortement ancrés dans la parole de Dieu, qui ont une foi sincère, qui sont sauvés et régénérés par l'Esprit-Saint de Dieu. On a besoin des hommes comme ça en politique. On n'a pas besoin d'amener toutes les choses externes dans l'Église et de devenir politique. Donc, vous ne me verrez pas faire de la politique ce matin. Je le souligne parce qu'il est anxiogène. Il est très présent. Le nombre de chrétiens qui paniquent en ce moment parce qu'ils se questionnent qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va. Ils sont en train de mettre les bases pour la fin des temps. Amen. Peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que c'est anxiogène pour moi? Non. Parce que mon objectif n'est pas là. Une deuxième influence, étroitement liée quand même avec la politique, c'est le capitaliste ou notre relation avec l'argent. Vous savez, on est souvent appelé dans notre monde, surtout dans notre monde riche, canadien, québécois, nord-américain, on a une relation avec l'argent qui est parfois difficile. La quête du gain de la vie, notre relation avec l'argent, On a des valeurs qui sont les suivantes. On veut bien gagner notre vie, avoir une vie abondante, souvent au travers des efforts et du travail. On a la vision de bien préparer notre retraite, d'être sage, de pas dépenser à l'excès, mais de se permettre un petit luxe une fois de temps en temps. Parce que veut, veut pas, on ne l'a-tu pas mérité? Et là, tout le monde dit, ben oui, on est tous de même, c'est normal. T'es qui, toi, en avant, pour dire que c'est pas correct? J'aimerais vous dire ceci. En acceptant une telle vision du monde, nous commençons à nous éloigner lentement mais sûrement de l'enseignement de la parole de Dieu, qui nous appelle à prendre soin les uns des autres, avec nos forces, nos faiblesses, et d'utiliser tout ce que Dieu nous donne pour l'avancement de son royaume. Notre relation avec l'argent, c'est un reflet presque direct de notre cœur. Et on n'est pas là pour bâcher sur personne ou politiser rien, c'est normal. On vit dans une place où tout coûte cher. Y en a-t-il qui se souviennent de l'annonce 12 pouces, 5 $? Ça boit? Savez-vous, c'est rendu combien, un 12 pouces? C'est rendu 18 piastres. Donc, c'est normal que notre relation avec l'argent soit un nerf de la guerre ici. Et vous savez, je ne suis pas là pour faire parler de rien, mais quand vous regardez vos dépenses, okay, si vous êtes comme moi, vous ne regardez pas les entrées d'argent, vous essayez de contrôler les dépenses. Et là, vous regardez combien d'argent j'ai mis dans X ou Y chose. Ça va vous montrer un peu votre cœur. Puis là, comptez pas votre hypothèque. Là, on a des paiements à faire, c'est normal. Mais tout ce qui est extra, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est restaurant, divertissement, bouffe de luxe, alcool, name it. Là, on prend le temps de regarder tout ça. Puis là, comparez avec votre dîme. Ça vous tente-tu? Moi, non. Mais ça vient nous montrer, et c'est un exercice à faire une fois de temps en temps dans notre vie. Hein, quand, où va mon argent? Qu'est-ce que je fais avec ça? Combien je donne? Combien je fais? Et une réalité qui est là, c'est le service chrétien, c'est bon, c'est très important, mais il y a aussi cette ligne-là directrice qu'on peut avoir dans notre vie. Et quand on prend le temps de suivre un peu cette idéologie mondaine, d'en mettre beaucoup de côté, de se préparer une belle retraite et tout. On veut bien vivre et puis c'est normal, c'est correct, mais faisons-nous confiance à Dieu dans notre gestion de l'argent. Ou est-ce qu'on devient anxieux? Est-ce qu'on devient stressé? Et là, on ajoute foi à l'esprit du monde, on croit à l'esprit du monde qui nous dit « Prépare-toi, mets-en de côté, assure-toi de toujours en avoir assez, tu n'as pas besoin de prendre soin des autres tant que ça. Ah. » Il y a le BS, il y a ci, il y a ça. T'sais? Il y a plein de choses qu'on peut se mettre en tête. Mais l'objectif est de dire, OK, est-ce que je suis prêt à comprendre ma relation avec l'argent peut être une influence du monde? Le troisième point qu'on va regarder ensemble, c'est l'esprit scientifique. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec la parole de Dieu parce qu'elle n'utilise pas ce qu'on appelle un langage scientifique. Donc, un langage scientifique, c'est souvent... Voici ce que je recherche, voici ce que je veux étudier, voici ce que j'ai observé et voici mes résultats. Voici ce que j'ai à dire là-dessus, voici mes conclusions. Et on aime tellement cette façon de partager qu'on lui donne une place plus grande. Et là, les gens, ils viennent lire la Bible et là, on leur dit « Lis ta Bible ». Et là, ils ont une histoire du roi David qui pêche contre l'Éternel et on a beaucoup de récits qui sont narratifs. Où là, à travers cette narration-là, Dieu nous parle et nous montre notre cœur personnel, le cœur de l'homme, comment vivre une vie qui va plaire à Dieu, une vie de piété, et comment ne pas tomber. Et on vit dans un monde où un des esprits du monde est le suivant. Vous êtes moins intelligent, car vous croyez en Dieu. Et cet esprit-là, il commence en prématernel. Vos enfants, mes enfants, tout le monde autour de nous sont bombardés. Et plus vous montez dans les échelons de l'éducation, plus, si vous êtes chrétien ou vous croyez en Dieu, vous êtes con. Et il y a eu un mouvement chrétien qui l'ont comme pris personnel et qui ont essayé de scientifiser plein de choses dans la parole de Dieu. Et j'aimerais simplement vous amener ce petit changement. L'approche scientifique, voici le problème avec l'approche scientifique, c'est qu'elle prône d'être neutre. L'approche scientifique prône une neutralité totale. Donc, voici ce que je veux observer, je prends les faits et je les applique. Et cette approche-là, elle est bonne. Elle est excellente sur tout ce qui est quantifiable. Là où c'est un problème, c'est que dès qu'on quitte ce qui est quantifiable, ce qu'on peut vérifier par les mathématiques et reproduire par une expérience qui va réussir à chaque fois, et là on tombe dans tout ce qui est théorique ou rhétorique, et là on tente d'expliquer ce qu'on ne peut pas prouver par l'expérience. Et là, vous voyez où est-ce qu'on s'en va. C'est que si je ne peux pas comprendre ou expliquer la création, le monde tel qu'il est, la profondeur de la puissance de Dieu à travers la création, et là, si je n'ai pas le droit de dire « c'est Dieu parce que c'est religieux, Dieu a créé toute chose, je vais créer autre chose. » Et là, on tombe dans les sciences, on tombe dans le darwinisme, on tombe dans les théories de l'évolution, on tombe dans, name it, les mathématiques quantiques, la cinquième dimension, la quatrième, la huitième, tu sais. Et on tente d'expliquer des choses, et ces choses-là qui nous sont bombardées sont présentées comme des sciences. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes con. C'est ce que le monde veut nous faire croire. Mais aborder les mêmes sujets, les mêmes thèmes scientifiques, en étant fondés sur la réalité de Genèse 1 à 11, la réalité d'un Dieu créateur, la réalité d'un Dieu qui est infiniment sage, infiniment grand dans l'infiniment petit, et que Dieu a tout orchestré, et que Dieu s'occupe de nous parfaitement, que Dieu a tout créé, on n'a pas besoin de se poser ces questions-là. On n'a pas besoin de tomber anxieux ou irrité quand quelqu'un qui n'a pas de foi est offusqué de la simplicité de la révélation de Dieu. On n'a pas à s'offusquer. On n'a pas à le prendre personnel. On n'a pas d'argument, fait que bon, si tu crois ça, t'es con. OK. Peut-être. Je peux peut-être utiliser un mot plus doux. Ce sont des choses folles pour eux. Mais Dieu, eux, n'est pas inquiet de ça, il utilise les choses folles du monde afin de confondre les sages de ce monde. Et comme notre monde prône la laïcité, nos enfants, nos magazines scientifiques, les non-croyants, certains croyants se font enseigner constamment des théories qui les éloignent d'une foi authentique. Et malheureusement, si tu veux avoir tes points à l'université, tu écris ce que le prof veut. Hein? Dernier point qu'on va regarder ensemble d'une mentalité du monde, c'est celui de la psychologie. Et je ne m'éterniserai pas sur celui-là, mais j'aimerais vous amener ceci. Sur quelle base est-ce que je donne sa valeur à l'homme? Est-ce que l'homme, l'humain que je suis, est-ce que je suis seulement un amas de cellules créé par les probabilités les plus impossibles du monde qui ont fonctionné ensemble, qui se sont mis ensemble, est-ce que je suis seulement un amas de cellules? Ou est-ce que je suis plus? Et si vous approchez plusieurs théories de la psychologie, qui est plus ou moins une science dépendant à qui vous parlez, l'observation des choses a fait avancer plusieurs. L'observation de l'influence de notre cerveau, les hormones et tout ça, ça a fait avancer énormément la psychologie. Mais en même temps, plusieurs approches de psychanalyse, de thérapie sont basées sur le fait que nous ne sommes seulement un amas de cellules. Et la Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses, créées à l'image de Dieu, avec une valeur beaucoup plus grande que tout le reste de la création. Jésus n'est pas venu sur terre mourir pour les chiens, les chats et les pitous. Jésus est venu mourir sur la croix pour des hommes pécheurs. Et si on enlève cette réalité-là et qu'on aborde l'idée psychologique comme un amas de cellules qu'on doit réorienter dans son comportement, eh bien, on peut créer des hommes et des femmes qui sont capables de bien agir, mais comment est-ce que la Bible m'enseigne de me sortir de ma dépendance? Comment est-ce que la Bible m'enseigne à ne pas vivre constamment sous la colère? Comment est-ce que la Bible fait ces choses-là? Elle nous dit, approche-toi de Dieu. Viens au pied de la croix, reconnais ton péché, abandonne ton péché. Ouf. Non. Et ton péché n'est pas la faute du voisin. Si mon voisin me donne un coup de poing dans la face, Seigneur, ce n'est pas de sa faute si je l'haïs. C'est de la mienne. Oui. Mais là, Marco, tu n'as pas de bon sens. La parole de Dieu dit si, et Jésus dans le sermon sur la montagne en parle, si un soldat t'oblige à faire 1 000, fais-en 2. Mais voyons donc. Ça n'a pas d'allure. Si on te frappe sur la joue droite, frappe-les. Hein? Si on te frappe sur la joue droite, tu fais un pas en arrière, évite le deuxième coup, riposte. Non, présente la joue gauche. Marco, ça n'a pas d'allure ce que tu dis. La parole de Dieu est tellement plus grande et impossible à vivre qu'on pense. Êtes-vous d'accord? Qui est capable? Moi, je ne suis pas capable. Je me fais couper sa route et j'ai juste le goût de klaxonner. Mais on est tous appelés à vivre une vie qui va être pleinement donnée à Dieu. Et là où la psychologie est en conflit, c'est qu'elle va essayer de dealer avec des comportements et elle va nous permettre souvent de mettre la faute sur mon péché à l'autre. Là, tous ceux qui sont parents, c'est de votre faute. Si vos enfants, ils sont d'une certaine façon. Si vous êtes colérique, c'est à cause du voisin, c'est à cause de votre char. Et là, on est capable de projeter tous nos problèmes sur les autres. Et là, quand on arrive au Seigneur avec nos problèmes et nos péchés, on peut prier pour tout le monde. Hein? Seigneur, aide le tapon qui m'a coupé. Je sais, Seigneur, que je n'avais pas besoin de traiter d'épais, mais c'est arrivé, je te demande pardon. On minimise nos péchés et on fragmente notre vie comme étant capable. C'est de la faute à lui, de la faute à lui. Et puis là, on stagne. Puis là, on se demande pourquoi je ne grandis pas dans ma foi. Pourquoi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et on a ajouté foi à un esprit du monde. Donc, on ne s'éternisera pas plus là-dessus. Et on va aller au point suivant. Éprouver les esprits. Et là, qu'est-ce que je veux dire par ça? On va regarder ensemble, c'est quoi la fondation de l'argument? On en a parlé un petit peu, mais c'est quoi les valeurs qui sont amenées là-dedans? Est-ce que c'est les valeurs bibliques ou c'est les valeurs du monde? Alors, si vous revenez en arrière juste un petit peu, 1 Jean chapitre 3, on va lire les versets 7 à 10. Il parle un peu ici de comment faire la différence. 1 Jean 3, versets 7 à 10. Et on va lire aussi les versets 11, 12 pour nous donner une belle application pratique. Okay? Donc, 1 Jean 3, 7 à 10 qui dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Petite application pratique ici. Ce qui vous a été annoncé que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaise et que celle de son frère était juste. L'apôtre Jean nous donne un bon exercice afin de déterminer si on est en présence d'une œuvre du diable ou de Dieu. Il nous enseigne, regardez la vie de celui qui agit. Est-ce que cette personne-là pratique la justice autant qu'il est capable de le faire? Parce que Romains nous rappelle qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et on est appelé à se rappeler que notre justice humaine ou ma vision de ce qui est juste est différente de celle des autres. Et donc, je suis appelé à appliquer une justice qui se trouve dans la parole de Dieu et qui n'est pas teintée par mon jugement personnel. Aime les autres comme toi-même. Ne venez pas me demander ma définition personnelle. Elle va être teintée. Regardez à Jésus. Regardez à sa justice. Regardez à vraiment comment la vie de Christ était au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Et quand on regarde ces points-là, les valeurs qui sont dedans, un argument, si vous lisez quelque chose, et que dans cette lecture, qu'il se soit un texte chrétien, laïque, ou peu importe où vous trouvez votre texte, si ce texte vous permet de valider et de faciliter un comportement pécheur dans votre vie, jetez ça aux poubelles. Si vous lisez quelque chose qui vous permet de valider et de minimiser un comportement pécheur dans votre vie, ne portez pas attention. Tassez-le. Si vous lisez quelque chose et que vous vous sentez accusé dans votre âme profondément, relisez-le. Peut-être que le Seigneur vous parle. Et parfois, faciliter un péché dans notre vie, c'est subtil. Mais vous savez, quiconque est né de Dieu, verset 9 du chapitre 3, ne pratique pas le péché. Et là, on a ici un mot qui veut dire mettre en action de façon quotidienne le péché. Je mets en action de façon quotidienne le péché dans ma vie ou je mets en action de façon quotidienne la justice. Et la question qu'on peut regarder ensemble, où se trouve la justice? Pour le chrétien, pour nous ce matin, où se trouve notre justice? J'aimerais vous dire qu'elle est ancrée profondément dans la personne de Christ. Dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus se trouve notre vraie justice. Et donc, quand on regarde et qu'on lit et qu'on observe et qu'on essaie de comprendre, plus ce que je lis, ou ce dont je me nourris me permet de valider, alléger et rendre agréable le péché dans ma vie, plus je vais devenir incapable de pratiquer une vraie justice. Au contraire, condamner le péché et lui rendre la vie plus difficile est souvent un signe qui vient de Dieu. Et là, je ne parle pas d'être condamné, de se sentir jugé, condamné tout le temps, mais il y a des choses, il y a des approches qui rendent le péché plus facile. Vous savez que dans les écoles secondaires, ils encouragent les jeunes hommes à pratiquer la masturbation pour ne pas tomber dans les péchés sexuels, pour ne pas violer du monde. Et là, on parle au Québec en 2024. Est-ce que c'est les valeurs bibliques? Je pense pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est profondément intelligent? Je pense pas. C'est fondé sur quoi? Quelle valeur? Qu'est-ce qu'on cherche? Le deuxième point, qui est plus une approche peut-être un peu différente, mais c'est la méthode de communication. Est-ce que j'essaie de faire passer mon point comme étant quelque chose de scientifique? J'essaie de paraître plus intelligent que je suis. J'ai un langage développé. Je ne laisse pas beaucoup de place aux questions. Et j'amène à une conclusion rapide et je ne veux pas débattre. Parfois, ça peut être dangereux. Est-ce que j'utilise un langage sur-émotionnel afin d'amener les gens à sentir quelque chose en eux et à les amener à « OK, je dois vivre ces choses-là. » Ah oui, la personne était tellement bonne, elle m'a tellement touché. Est-ce que la personne utilise des images choquantes ou la peur pour me faire réagir, m'amener à réfléchir plus, m'amener à paniquer, devenir anxieux? Est-ce que la personne cherche un support mais ne communique pas une idée, plus une émotion? Où est-ce qu'on s'en va? Et là, je ne suis pas contre l'écologie, là, mais où est-ce qu'on s'en va? On tue la planète, on est tous méchants. Qu'est-ce qui va se passer avec mon chien, mon chat, vos enfants, les enfants des autres? Et là, on dit, il faut que vous fassiez plus de ça. OK. Mais argumentaire, complet, non. On peut facilement tomber dans l'émotion. Et le dernier point, ce sont les effets désirés. Qu'est-ce que la personne veut vous communiquer? C'est quoi le but? Donnez-moi de l'argent, abandonnez telle chose, lâchez toutes vos chars à gaz, tombez électrique. Non, non, l'électrique, les batteries, ça tue tout le monde. Restez au gaz, dormez au gaz. Et puis là, quel est l'effet désiré? Et là, si on parle au niveau de notre foi, quel est l'effet désiré quand vous lisez des choses concernant votre foi? C'est quoi l'effet désiré? Si vous vous nourrissez énormément d'écriture sur la fin des temps, on peut facilement tomber anxiogène, on va se faire un bunker, on va être prêt, on va avoir de la bouffe pour 7 ans. Et puis là, on va être prêt, ça va être anti-bombe nucléaire, puis là, on va spotter, lui, c'est l'antéchrist, puis là, lui, il fait ça. Et là, on tombe anxiogène. Et c'est quoi les effets désirés des différentes choses que je lis? De quoi est-ce que je me nourris? Ça va m'amener à réfléchir. C'est quoi l'effet voulu? Je veux qu'on panique. C'est ça, des fois. Je veux des likes. Je veux des commentaires. Vous savez, si vous êtes quelqu'un qui utilise YouTube un petit peu, il y a une trend, là, excusez mon anglicisme, qui veut que sur n'importe quelle vidéo, les AI vont tout de suite émettre un commentaire complètement contre. Et ils vont faire sortir quelque chose qui n'a pas rapport dans le but d'avoir des réponses, des clics, des likes. Et puis là, il y a plein de gens qui comme répondent à un AI qui est juste là pour créer des clics. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. L'effet désiré, c'est d'être vu. Mais vous êtes peut-être trop vieux pour ça. Donc, peut-être que vous écoutez la radio et puis là, c'est tout le temps les mêmes 3 tapons qui appellent pour répondre. Là. Ça arrive. Et sachez que quand vous appelez à radio, si vous n'êtes pas assez intéressant, ils ne vous donnent pas la ligne. Je le sais, je vais essayer. Mais quand on continue, on regarde, et puis là, on parle d'éprouver les esprits, mais on doit continuer. Les faux prophètes, et là, je veux aller vite. Si vous tournez dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 3, et 18-19, je vous invite à tourner rapidement. C'est comme 3 pages plus loin dans ma Bible. Là. Ne veuillez pas. Ça ne devrait pas être trop long. On va lire 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, qui nous parle un peu des faux prophètes, parce que dans notre texte de ce matin, on en parle. L'esprit d'antéchrist, les faux docteurs, les faux prophètes. Pierre nous dit au chapitre 2 de sa deuxième épître, « Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous, des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Et si vous allez plus loin au verset 18, « Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et par les dissolutions ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Donc, quand on regarde ce texte, c'est quoi les faux prophètes? C'est quoi leur motivation? Puis là, on le dit souvent ici, il est ici. Ici, là. C'est eux-mêmes. Bien souvent, les faux prophètes se prêchent eux-mêmes. Ils sont omniprésents dans le monde. Leur but, parfois, de s'enrichir, parfois de faire partir un certain mouvement. Et un prophète va utiliser ce qu'on appelle ici des sectes pernicieuses. Et dans la foi, là, ça, c'est souvent centré sur une chose. Ils vont renier le maître qui les a rachetés. Ils vont renier Jésus. L'important devient leur agenda et pas la parole de Dieu. Pas Jésus, pas le salut. Et souvent, ils vont utiliser des demi-vérités ou ils vont aller chercher des gens populaires pour les soutenir dans ce qu'ils font. Et ils vont essayer, s'assurer de se multiplier avec le plus de stratégies possibles. Ils vont faire des avancées en mettant le péché de l'avant. Ils vont souvent amener plusieurs personnes à tomber parce qu'ils vont avoir minimisé l'impact des péchés. Ils vont avoir amené de l'avant des choses qui sont mauvaises. Et leurs œuvres, ils ont des discours de vanité. Ils amorcent les convoitises. Ça veut dire qu'ils vont avoir des personnes qui vont les suivre parce qu'ils vont toucher quelque chose que les gens veulent. Ils vont nous amorcer. Ils vont commencer une œuvre en nous par la convoitise. Ils vont encourager souvent un comportement pécheur. Et souvent par le succès immédiat, c'est des gens qui parlent bien, ils ont une prestance, ils font des promesses, ils vont amener les gens, les autres, à accepter le péché dans leur vie et même parfois à le rechercher. Ils ont une influence terrible. Comment répondre à nos enfants quand leur héros, il est beau, grand, fin, il parle bien, il a 1 million d'abonnés, il est écouté, on l'invite à la radio, mais il vit une vie tout croche. Hein? Il est heureux, ou au moins il semble heureux, il est prospère, ou au moins il a une prestance de prospérité. Et puis là, il regarde papa, maman, on a un vieux char, on ne sonne pas toujours super intelligent, on n'est pas beau quand on se lève le matin. Et là, ils sont obligés de faire des comparaisons. Et on vit un combat extrême. Comment répondre à nos enfants? Ou comment répondre à tous ceux qui commencent sur le chemin de la foi, qui se font malheureusement bombarder de plein de croyances différentes et se font faire des promesses de guérison, se font faire des promesses de devenir riche, de ne plus avoir de problème, ils se font faire des promesses que ça va être facile. Et si nous, en tant qu'Église, pas juste les pasteurs, mais chacun d'entre nous ici, on ne fait pas la différence. Les faux prophètes vont venir les ravir et vont leur donner une foi complètement éphémère. Au moins, on sait que les faux docteurs ont une fin ultime en soi. Dieu va s'occuper d'eux. On sait tout ce qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et on est appelé à ne pas les suivre, car leur fin, c'est les temps de feu, comme dirait Jean. Et là, ce matin, on va aller dans le croustillant. Et c'est de ça que je veux vous parler, même si ça fait 40 minutes que je vous parle de d'autres choses. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, confesser Jésus? Parce que j'ai souvent entendu, vu des gens se déclarer chrétiens parce qu'ils sont au courant qu'il y a 2000 ans, il y a un homme qui est venu sur terre, qui s'appelait Jésus, puis qui est mort sur une croix. Il y a une différence entre se déclarer chrétien et, je vous le dis, chrétien, c'est un terme très large. OK? Chrétien, ça peut inclure catholique, protestant, et là, vous allez peut-être être surpris, mormon, témoin de Jéhovah, et il m'en manque un que je ne me souviens plus c'est quoi. Adventiste, excusez. Là, on peut avoir plein de choses, toutes les sous, dessous, dessous, OK? Et là, comment est-ce qu'on fait pour différencier le vrai du faux? Comment est-ce qu'on fait pour voir si... Et là, je ne parle pas du en général, OK? J'aimerais vous parler des individus. Quand je lis quelque chose, est-ce que l'auteur, peu importe sa dénomination et peu importe d'où il vient, est-ce qu'il reconnaît que Jésus-Christ est venu en chair? Ça veut dire que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Si quelqu'un vous présente un Jésus qui est moins que la deuxième personne de la Trinité, qui est moins que Dieu lui-même, courez. Allez-vous-en. Fermez le livre. Jésus est Dieu. Jésus est le seul qui peut nous sauver. Et ce n'est pas la dénomination. J'ai lu des livres exceptionnels de gens qui viennent de plein de milieux différents, qui parlent profondément avec un amour et un respect de la parole de Dieu, qui nous démontrent comment Jésus est Dieu. Et vous savez, quand Jean a écrit le texte, se déclarer chrétien, c'est se déclarer comme une torche humaine pour le palais de Néron. Se dire chrétien, ça coûtait sa vie. On est en train d'écrire dans les années, fin des années, ça fait même pas 100 ans. On a Néron qui déteste tellement les chrétiens qu'il les fait arrêter, il les met dans son jardin, il les couvre de peau, il met de l'huile dessus puis il les allume le soir. Se déclarer chrétien et reconnaître que Jésus est son Seigneur et son Dieu, c'est une condamnation à mort. Donc, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, venu en chair, est de Dieu. Toute personne qui est intentionnelle dans sa vie, qui croit vraiment en Dieu, qui est prêt à mourir pour la réalité que Jésus est son Sauveur, cette personne-là vient de Dieu. Les paroles sont une chose, mais Jésus demande une vie complète. Le prix est payé. Jésus a accompli notre salut, complètement, sans laisser rien au hasard. Le prix est payé, l'agneau est immolé, les péchés sont pardonnés, le voile est déchiré, on a un accès complet à Dieu. Il ne manque rien. Tout est fait. Il est ressuscité pour nous montrer qu'il avait le pouvoir sur la vie. Il nous promet dans Jean 17 et lorsqu'il a été enlevé au ciel dans Acte 1, il nous promet de nous envoyer l'Esprit Saint. Chacun d'entre nous qui donnons notre vie à Dieu, si tu as donné ta vie à Dieu, l'Esprit Saint de Dieu habite en toi. L'Esprit Saint de Dieu vient te convaincre de ton péché, vient te convaincre de ton besoin de Jésus et devrait t'amener constamment au pied de la croix. Sans minimiser rien. Mais nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les dominations de ce monde. J'aimerais vous amener aussi le point suivant. La parole de Dieu, c'est la foi. Confesser Jésus comme un sauveur personnel n'est pas un ensemble de valeurs qui me fait bien paraître. Vous savez que la plupart des tueurs en série sont des hommes extrêmement charismatiques, qui ont, à part dans leur folie qu'ils ont tué plein de monde, là, ils sont extrêmement charismatiques, ils ont des belles valeurs, c'est des gens amusants, le fun à côtoyer, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et il y a des études psychologiques, comme j'essaie de vous, comme on parlait au début, il y a des études qui montrent comment c'est un comportement dérangé, mais en même temps, ça en est fascinant pour certaines personnes. Mais la foi, la vraie confession de Jésus, faire de Jésus notre sauveur, ce n'est pas un ensemble de bonnes valeurs. Si je donne à mes enfants des bonnes valeurs et que je lui enseigne à être poli, à demander pardon, à être courtois, à respecter ses aînés, à respecter les limites de vitesse, ça c'est difficile, à être sage avec son argent, à travailler fort, à ne pas abandonner, à ne pas sacrer, à avoir des bons amis, à aller à l'église, si j'y enseigne tout ça. Là, vous allez dire, hey, quel père exceptionnel. Vous pouvez le dire, c'est pas vrai. Mais si je ne lui ai pas enseigné son besoin de sauveur, si je l'ai laissé toute sa vie mettre la faute sur les autres, oui, je me suis fâché, mais c'est à cause de lui. Ça n'arrive pas chez vous, ça. C'est correct. Chez nous, ça arrive. Là. C'est de la faute de lui, c'est à cause de moi, c'est à cause de toi. C'est le voisin. Non, mon fils, ton péché a besoin d'être pardonné. Je te pardonne. Dieu te pardonne. Ce que tu te pardonnes. Ce qu'on avance ensemble. Ce que tu acceptes que ce soit un péché. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du salut. Comme moi, j'ai besoin du salut. Est-ce que je demande pardon à mes enfants? Est-ce que je leur donne vraiment cette profonde foi en Jésus comme étant un vrai consolateur, un vrai sauveur? Finalement, ma foi et ma confession de Jésus devraient être l'expression profonde de ce que j'ai lu dans la Bible, de ce que j'ai étudié. Je devrais appliquer ma doctrine à ma vie et non croire ce que le gars dit en avant. Si votre foi, votre confession de Jésus est basée simplement sur le fait que quelqu'un vous a dit « Fais ça et tu vas être sauvé. » Je ne dis pas que vous n'êtes pas sauvé, mais je dis ceci, ancrez-vous profondément dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est ici ce matin, pour être capable d'activer nos cerveaux à chercher à comprendre plus la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des prédications. C'est pour ça qu'on a des groupes maison dans lesquels on est ensemble et on étudie la parole de Dieu, on prie, on demande à Dieu de nous éclairer par son Esprit Saint. C'est quoi les parcelles de ma vie où j'ai laissé une pomme, je l'ai oubliée là, puis là elle a pourri, puis là ça pue. Ça serait pire si c'était une patate. Où est-ce que j'ai laissé pourrir quelque chose dans ma vie et là ça pue, et là tout ce que je vis pue, tout ce que je fais pue. Où est-ce que j'ai laissé ça? Mais la théologie appliquée à ma vie, donc pas obligé de savoir toute la Bible par cœur. Mais ce que je sais, est-ce que je l'ai ancré dans la parole de Dieu? Mon besoin de salut, est-ce qu'il est ancré dans la parole de Dieu? Mes réactions pécheurs, est-ce qu'elles sont ancrées dans la parole de Dieu? Et est-ce que j'ai la capacité d'aller à Dieu en acceptant sa révélation, sa promesse de me fortifier, de me pardonner, de m'accepter? Est-ce que, à travers ma connaissance de Dieu, je suis pleinement conscient de tout ce que ça inclut? Pas nécessairement. Est-ce que tous les jours de ma vie, quand je m'approche du Seigneur, j'ai toute cette idée-là théologique? Non. Mais au moins, quand on me questionne, quand je me questionne moi-même, j'ai bâti ma vie sur la parole de Dieu. Je ne suis pas aveugle, errant, ou quand je lis un nouveau livre qui me dit que Jésus avait Marie Magdala pour femme, puis il y a eu des enfants, puis là, ils sont cachés. OK, on ferme le livre, puis on met ça à la poubelle. Vous voyez, on a une capacité. Mais le dernier point que j'aimerais vous dire, c'est que c'est un combat difficile. Vous savez, on est dans, en anglais, on est dans le territoire, le turf de Satan. On est des ambassadeurs dans un monde qui nous déteste. Le but de l'ennemi, c'est de détruire l'Église, de détruire l'œuvre de Christ, de s'assurer, de peu importe la façon, que croire en Dieu, c'est pas hot. Ça, c'est mon côté pasteur jeunesse qui parle. Mais croire en Dieu, ça fait de vous quelqu'un de faible. Ça, c'est quelque chose qu'ils veulent vous faire croire. Ils veulent vous faire croire aussi qu'il n'y a pas de conséquences à vos péchés. Et là, il y a des chrétiens qui se nourrissent de choses qui facilitent le péché. Et là, j'entends parfois, « Ouais, mais je ne suis pas obligé d'abandonner ce péché-là parce qu'il est pardonné. » Dieu m'a pardonné. Hein? Paul pose la question dans Romains. Continuerions-nous de pécher? Parce que si on arrêtait de pécher, Jésus serait mort pour rien. T'sais. Et cette mentalité-là, elle est partout. C'est pas grave. Sois heureux. Vis ta vie. Une question pour vous. Est-ce que Jésus est mort sur la croix principalement pour que vous soyez heureux? Est-ce que Jésus est mort sur la croix afin de vous donner la prospérité? Est-ce que Jésus est mort sur la croix parce que c'était le fun? Non! Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort sur la croix parce que c'était la seule façon d'être racheté. Et l'Esprit nous fortifie. Jésus dit, il est préférable que je m'en aille et que je vous envoie l'Esprit. C'est la raison pour laquelle on peut avoir une foi complète en Christ. On n'a pas à avoir peur d'être un peu extrémiste. On n'a pas à avoir peur de passer pour ridicule. On n'a pas à avoir peur de toutes les mentalités du monde. On n'a pas à avoir peur quand je lis les nouvelles politiques. J'ai pas à avoir peur quand, malheureusement, j'ai beaucoup de dépenses à faire, quand mon char brise puis que c'était pas le temps, parce que c'est jamais le temps. On n'a pas à devenir anxiogène quand j'ai des problèmes et que je ne sais pas où aller, que je veux trouver des... que là, je commence à lire sur la psychologie, puis là, il faut que j'aille trouver l'enfant secret en moi, et puis là, que je dise, c'est la faute à qui? Non! Je peux pleinement être régénéré. Je peux pleinement être aimé, fortifié, pardonné et transformé par la parole de Dieu. C'est pas facile, par exemple. C'est pas le fun. C'est bien rare que c'est le fun, se faire mettre son péché d'en face. Je vous parle par expérience. Mais, c'est la façon de Dieu. Et si vous lisez, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les esprits du monde parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs, combattons par l'Esprit Saint de Dieu. Mettons-le en premier dans notre vie. Allons à lui avec tous nos problèmes, nos péchés. Demandons-lui, qu'est-ce qui est caché à moi? Qu'est-ce que j'ai laissé rentrer dans ma vie qui vient foutre le trouble? C'est quoi la patate qui pue dans le fond de mon armoire que j'ai oubliée? Aide-moi à l'enlever. Mets ton push-push à fragrance de Saint-Esprit. Enlève tout le trouble et fortifie-moi. Seigneur, si tu m'as vraiment sauvé, fais le ménage. Et là, quand il commence à nous montrer des affaires, on fait le ménage, puis on accepte, puis on avance. On est appelé, notre appel chrétien n'est pas politique, il n'est pas psychologique, il n'est pas scientifique, il est évangélique. Vous avez en vous l'Esprit de Dieu qui vous appelle à la croix, qui vous appelle à la repentance, qui vous appelle à vivre une vie pleinement ancrée dans le Seigneur. Rien d'autre. Peut-être vous êtes appelé à faire des choses exceptionnelles en politique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne politisez pas l'Évangile. On est appelé à prêcher à toutes les nations, que ça leur tente ou pas, que ça me tente ou pas. Je suis appelé à prêcher Christ. Pas les valeurs chrétiennes nécessairement. Seigneur, l'Esprit Saint va s'occuper des valeurs. Je suis appelé à compter le coût. Est-ce que vous saviez dans quoi vous vous embarquiez quand vous avez donné votre vie à Dieu? Pas tout le monde. Et souvent, on s'en rend compte quelques années plus tard. Puis là, on peut avoir de l'amertume.
« Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Je n'étais pas censé souffrir. Le gars à TV, il a dit que ça irait bien. »
Mais la réalité, c'est que c'est pas facile. Ça coûte cher. Ça pique. C'est dur. Parce qu'on aime ça, contrôler la patente. Mais le coût de suivre Jésus, c'est que la foi me demande de ne pas retomber dans mes chemins tortueux quand le monde me rattrape. C'est faire confiance à Dieu quand c'est difficile. C'est de sortir de mon bunker que j'ai créé avec toutes mes idées mondaines pour me protéger, parce que l'Évangile fait mal, pique, est humiliant, est insultant parfois, parce qu'on est donc orgueilleux, moi le premier. Romains chapitre 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus. Il nous dit aussi dans Romains 8, même chapitre, mais 38 versets plus loin, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Bien que ce soit très effrayant, prenons l'appel d'être attachés à Jésus sérieusement. Et ne suivons pas n'importe qui ou n'importe quoi. Ce n'est pas parce que la personne se dit chrétienne en avant qu'elle a un but évangélique. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit non chrétien qu'il a un but destructeur. Mais nous, moi, toi, personnellement, tu es appelé à t'attacher à l'Évangile. Vivre de l'espoir de l'Évangile et faire confiance à Jésus, peu importe ce que le monde met devant nous. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu le monde, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prions. Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin parce qu'on a besoin de toi dans nos vies. On a besoin de toi, Seigneur, pour nous montrer la profondeur de ton évangile dans nos vies, l'efficacité sans borne, sans limite de ton sacrifice, l'amour profond que tu nous as démontré en faisant de nous tes enfants, en acceptant nos limitations, en acceptant nos péchés. Seigneur Dieu, tu as échangé, Seigneur, ta perfection contre nos péchés, contre nos manquements, contre la laideur qui est notre esprit. Seigneur Dieu, tu as accepté notre orgueil et tu nous as donné ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, on est appelé à vivre profondément, touché et dirigé par ton Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur Dieu, de continuer ton travail en chacun d'entre nous. Seigneur, si on souffre ce matin, s'il y a des gens qui sont en lutte avec un péché, qui souffrent, peu importe, Seigneur, de solitude, de colère, de désir, de convoitise, Seigneur Dieu, de colère, prends soin de leur cœur par ton Esprit Saint, Seigneur. Dirige-les vers ta parole, attire-les à toi. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, aller à tout vent de doctrine. Aide-nous à faire le point, Seigneur, à toujours avoir un regard évangélique, un regard qui est profondément ancré dans ta parole. Seigneur Dieu, aide-nous à prendre racine près du courant d'eau de ton amour, de ta grâce et de ton salut. Fais que l'Évangile puisse être dans chaque partie de notre vie. Aide-nous à ne pas faire de compromis quand la vie est difficile. Aide-nous à ne pas retourner, Seigneur Dieu, à nos vieilles façons de faire. Tu nous dis, Seigneur, que celui qui agit d'une telle sorte est semblable à un porc, à un chien qui retourne manger son vomi. Seigneur Dieu, on ne veut pas être comme ça. On veut aller à toi, s'accrocher à toi. On veut te demander de bénir, Seigneur Dieu, les efforts qui sont faits. On veut te demander de nous aider à nous accrocher à toi, de nous aider à rechercher ta présence de plus en plus, d'aider, Seigneur, alors que c'est difficile, d'encourager alors qu'on n'a plus d'espoir. Seigneur Jésus, on te prie parce que sans toi, on n'est rien. Et on te prie parce que tu es efficace. On veut mettre notre foi en toi, on veut croire, Seigneur Dieu, en ce que tu fais, te faire confiance malgré les difficultés. Et Jésus, bénis-nous, bénis ton Église, aide-nous à prier avec ferveur, aide-nous à aimer, Seigneur Dieu, comme toi tu aimes. Aide-nous, Seigneur, à faire le tri dans les doctrines du monde et ce qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à profondément partager ton Évangile pour les gens autour de nous. Aide-nous à être une Église qui va t'aimer, qui va te publier comme toi tu es. Aide-nous à nous accrocher à ta révélation et non à ce qu'on en fait avec notre intelligence. Seigneur Jésus, sois béni, sois glorifié. Merci, au-delà de toute espérance, d'être dans nos vies. Et Seigneur Dieu, sépare-nous avec ta bénédiction. Bénis notre semaine au nom de ton Fils Jésus. Pour ta gloire, qu'on te prie.